Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Marine Le Pen attaque le banquier Macron ce soir à Nice. La candidate du Front National veut jouer le peuple contre une supposée oligarchie financière. Nous l'écouterons. Quant à Emmanuel Macron, il se pose en ultime rempart contre le FN et le danger qu'il constituerait pour la démocratie, extrait dans ce journal. Ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron. Environ 3000 personnes ont manifesté aujourd'hui dans plusieurs villes pour rejeter les deux candidats du deuxième tour. Reportage à Nantes dans un instant. Donald Trump fêtera ce week-end ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche. Le président américain promet des baisses d'impôts massives. Il reste populaire dans son électorat. Nous en parlerons avec notre invité, l'universitaire Jean-Éric Brana, auteur de plusieurs ouvrages sur la politique américaine. Au lendemain de leur choc quasi frontal autour de l'usine Whirlpool d'Amiens, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont repartis en campagne aujourd'hui, mais cette fois chacun de leur côté. La candidate du Front National a pris la mer au Gros du Roi dans le Gard, à bord du chalutier Grâce de Dieu 2. Elle a accusé son rival de vouloir mener une politique de casse sociale par ordonnance. Et ce soir à Nice, devant plusieurs milliers de partisans, Marine Le Pen a une nouvelle fois attaqué Emmanuel Macron, réduit à son statut d'ancien banquier.
Leur point commun à tous est évident, ils sont la politique de la France depuis des décennies et notamment du dernier quinquennat. Ils sont l'oligarchie qui nous a menés là où nous sommes. Ils sont l'oligarchie qui a choisi depuis longtemps son camp, celui du banquier Macron, et qui voudrait l'utiliser pour recaser 5 années de plus ses hommes, ses réseaux, ses élus, ses politiques. Emmanuel Macron est un banquier d'affaires. Et je pense qu'il avait toutes les qualités pour être un bon banquier d'affaires. Je comprends d'ailleurs qu'il ait eu ses promotions et soit rapidement devenu associé gérant. Il a le caractère pour cela. Il a l'insensibilité qu'il faut à ce métier. Cette capacité à prendre des décisions dans le seul objectif du profit, de l'accumulation d'argent, sans aucune considération pour les conséquences humaines de ces décisions. Oui, savoir rayer quelques centaines d'emplois comme il voudrait le faire pour Whirlpool sans état d'âme. L'usine doit délocaliser pour que les dividendes des actionnaires augmentent encore, mais pas de soucis. No problem. Une anecdote, comme l'a appelé son mentor, Monsieur Attali.
Voilà, Marine Le Pen en meeting ce soir à Nice. Emmanuel Macron, lui, était en déplacement à Sarcelles dans le Val d'Oise. Le candidat d'En Marche a été chaleureusement accueilli dans un quartier où, dit-il, Madame Le Pen ne peut pas venir car elle veut que ses habitants s'en aillent. Fin de citation. Façon d'affirmer que Marine Le Pen ne serait pas la bienvenue dans un quartier populaire et métissé. Ce soir, Emmanuel Macron était sur TF1. Il s'est une nouvelle fois justifié sur la petite fête qu'il avait organisée au restaurant La Rotonde à Paris pour fêter sa première place au soir du premier tour.
Le chiffre que j'ai obtenu dimanche soir, il est supérieur à celui que Jacques Chirac, président de la République, avait obtenu en 2002. Et donc, la joie, en effet, d'être en tête, d'avoir réussi à transformer quelque chose et commencer à refonder la vie politique française. Et à côté de cela, une gravité liée à la situation et à l'émergence de Madame Le Pen comme une de ses finalistes. Je suis aujourd'hui celui qui doit rassembler le camp des Républicains. Je suis aujourd'hui celui qui doit créer l'unité d'une France fracturée face justement à Madame Le Pen, avec un paysage politique français marqué par ce parti. C'est celui de la haine, du refus de l'autre et d'une France rétrécie. Et donc ce qui ressort en effet de ce premier tour des élections présidentielles, c'est une opposition claire entre deux offres qui refondent la vie politique française. D'une part, les progressistes. D'autre part, les nationalistes.
Emmanuel Macron, ce soir sur TF1, les derniers sondages lui donnent toujours une très large avance sur Marine Le Pen. Le rapport de force se situe aujourd'hui autour de 60-40. Il y a ceux qui iront voter le 7 mai prochain et qui choisiront entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et il y a ceux qui rejettent cette alternative. Combien sont-ils ? Il est trop tôt pour le dire. Une chose est sûre, depuis dimanche soir, les manifestations se multiplient pour renvoyer dos à dos les deux candidats. Exemple à Nantes, avec ce reportage de Pascal Boucherie.
Ni patrie, ni patron, nous sommes ingouvernables, et bon courage aux gagnants du 7 mai.
Derrière les banderoles, ni Macron ni Le Pen, une faible mobilisation déplorée dans les prises de parole.
Il n'y a quand même pas grand monde, enfin, c'est un peu chaud quoi. Alors qu'ils étaient des dizaines de milliers, voire des millions à voter Mélenchon il y a quelques jours. Mais on désespère pas qu'ils nous rejoignent, bien sûr, les insoumis.
Pas plus de 500 personnes au plus fort du cortège, selon les organisateurs. Une moyenne d'âge assez basse, autour de 25 ans. Des lycéens, des étudiants et de jeunes actifs, comme Ludivine.
Moi, je suis quelqu'un qui ne vote pas. Je suis contre ce système. Du coup, avoir Le Pen ou Macron, c'est pas un bon futur, en fait. Parce qu'on va tous être des esclaves au travail. Et, enfin, moi, je sais que je bosse en industrie. J'ai pas envie de passer ma vie à travailler, puis à rentrer le soir, à aller dormir, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire.
Au sein du cortège, l'envie de s'abstenir de voter n'est pas partagé par tous. Lucille, déjà présente dans la manif le soir du premier tour, doute énormément.
Ni Le Pen, ni Macron, ni les élections. C'était pas si évident que ça et que ça a fait aussi un peu peur à tout le monde. Même si on n'a pas envie de voter Macron, ça devient quand même assez compliqué, quoi.
Les organisateurs appellent à un nouveau rassemblement lundi 1er mai sur l'île de Nantes.
Pascal Boucherie de France Bleu Loire-Océan. D'autres manifestations autour du même rejet des deux candidats ont eu lieu aujourd'hui. Ils étaient 300 à Lyon, 1 000 à Rennes et Paris. Au total, l'AFP a recensé près de 3 000 manifestants pro-abstention dans toute la France. Donald Trump fêtera ce week-end ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche. Le président américain reste un personnage éminemment controversé à la fois dans son pays et à l'étranger. Hier, il a donné quelques précisions sur l'une de ses principales promesses de campagne, la réforme fiscale destinée à alléger la feuille d'impôt. Invité de ce journal, Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université Paris-Assas. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Éric Brana, Donald Trump propose des baisses d'impôts massives pour les entreprises et les particuliers. Cette réforme a-t-elle une chance d'aboutir, sachant qu'elle doit passer l'obstacle du Congrès ?
Oui, alors cette réforme, pour l'instant, n'est qu'une ébauche de réforme, puisqu'on a bien senti que le président Trump, qui approche de ses 100 jours symboliques, voulait frapper un grand coup en ayant une victoire quelque part, et donc il a sorti son plan très rapidement. Mais ce plan se résume à une feuille A4 simple, sur laquelle il y a quelques mesures, sans aucun détail. Donc pour l'instant, il est difficile de dire si ça passera, puisque personne ne connaît les détails réels de la réforme qu'il entend mettre en place ou qu'il entend faire avancer auprès du Congrès.
Il est tout de même question de baisse d'impôts massive.
Oui, il est question de baisse massive puisque la tranche d'imposition maximale qui est aujourd'hui de 35% pour les entreprises passerait à 15%. Et c'est vrai que pour les particuliers, c'est la même chose. Il n'y aurait plus que 3 tranches d'imposition, ce qui simplifierait énormément les déclarations d'impôts en rajoutant beaucoup de déductions fiscales qui sont supprimées, mais des déductions qui sont davantage possibles dans le plan, encore une fois, tel qu'il est proposé, sans en avoir les détails.
Vous parlez justement d'une réforme qui se limite pour l'instant à une feuille A4, ça ne fait pas très sérieux.
Non, ça ne fait pas très sérieux et c'est vrai que les démocrates ont tout de suite bondi sur cette affaire en expliquant que le peuple américain attendait plus au bout de 100 jours et qu'il était très difficile de se prononcer. Ils ont d'autant plus bondi que la réduction des taxes pour les entreprises à 15% leur fait très peur, puisque comme tout le monde le sait, les impôts, ça sert à financer les programmes sociaux, que les démocrates entendent défendre les programmes sociaux et que donc ce qui se cacherait derrière cette réforme, ce serait aussi une suppression de la plupart des programmes sociaux, donc une guerre en perspective entre démocrates et républicains au Sénat.
Donald Trump parle d'une réforme autofinancée. Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça signifie que pour lui, la croissance américaine va bondir avec cette réforme, les gens récupérant de l'argent. C'est vrai que c'est une aubaine. Si on vous explique demain que vos impôts baissent de 60%, tout de suite, enfin, vous savez calculer, vous savez combien vous avez dans votre porte-monnaie qui retombe rapidement. Donc il espère que cet argent sera réinvesti dans le commerce, principalement. Donc l'Amérique va se mettre à produire à nouveau. Et donc la croissance passerait à 3%, ce qui, pour lui, permettrait d'autofinancer la réforme, puisque à travers d'autres taxes, bien sûr, le Trésor américain s'y retrouverait. Mais pour l'instant, la croissance est de 1,6, donc il y a quand même un gros gap entre les deux. Même le FMI en doute, puisque le FMI a prévu pour cette année à nouveau une croissance de 1,6. Donc on est très très loin des perspectives qu'annonce Donald Trump pour l'année 2017.
Jean-Éric Brana, Donald Trump, vous le disiez, passe ce week-end le cap des 100 jours à la Maison-Blanche. On a parlé d'un début de mandat chaotique. Alors quel est son niveau de popularité aujourd'hui ?
Alors, la popularité est très stable pour Donald Trump, puisqu'il a commencé son mandat à 44% de bonnes opinions et qu'aujourd'hui, il est à 44% de bonnes opinions, c'est-à-dire une marge absolument nulle. Il n'a pas progressé, il n'a pas baissé, mais il n'a aucune marge de progression parce que son impopularité, en revanche, qui était également à 44% le 20 janvier, est montée brutalement à 54%, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus personne aux États-Unis qui est sans avis à propos de Donald Trump. Les Américains sont soit pour, totalement pour, soit contre, totalement contre. Et quand je dis totalement pour, les Républicains, dans un sondage d'aujourd'hui sur CNN, révèlent qu'ils sont à 88% derrière leur président, et ceux qui ont voté pour Donald Trump expliquent qu'ils referaient le même vote à 96%. Donc on a vraiment une société sclérosée, totalement divisée et opposée. Donc, c'est pas très bon pour l'avenir.
Cette polarisation renvoie à deux Amériques irréconciliables ?
Elles ne sont pas très réconciliables, en tout cas. Alors, aux États-Unis, c'est vrai qu'on a vu des rebondissements pour moins que ça. Et il peut se passer peut-être un fait qui ferait tout d'un coup que Donald Trump serait très populaire. Par exemple, cette réforme des impôts sur laquelle il compte beaucoup, pourquoi pas ? Ou une guerre, puisqu'on parle également d'intervention internationale. Ça relie les Américains également entre eux. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça n'en prend pas le chemin. Après une campagne qui a été totalement hystérisée, particulièrement difficile. Et tout cela, ça a laissé des traces. Et c'est vrai que les Américains n'ont pas dépassé cette campagne. Mais c'est vrai aussi que ce président était particulièrement bizarre par rapport aux autres présidents dans son comportement. Parce qu'il n'a pas mis un costume présidentiel depuis le départ. Parce qu'il a l'habitude de tweeter et de s'adresser directement au peuple. Parce qu'il dénie aux médias ce pouvoir traditionnel qu'ils ont d'être les interprètes de la pensée du gouvernement et d'expliquer au peuple. Donc tout ça, ça crée une suspicion terrible qui fait que les gens ne savent plus comment se comporter vis-à-vis de ce comportement. En revanche, ce qu'on sait aussi, c'est que les Américains disent qu'on vit bien aux États-Unis, puisqu'ils sont 60% à dire que leur pays va bien et que, à la limite, s'il n'y avait pas de gouvernement, ça serait peut-être mieux.
Jean-Éric Brana, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je précise que après avoir écrit des ouvrages sur Hillary Clinton et Donald Trump, vous allez publier en septembre un nouveau livre, L'Amérique divisée, aux éditions Privat. Le message de fermeté d'Angela Merkel à deux jours d'un sommet européen sur le Brexit. Devant le Bundestag aujourd'hui, la chancelière allemande a appelé les Britanniques à ne pas se faire d'illusions. Ils n'auront plus les mêmes droits que les États membres de l'Union européenne. On retrouve à Berlin Cyril Sauvageau.
Limiter la casse pour l'Union européenne et défendre les intérêts des États membres, ce sera la ligne de conduite de l'Allemagne dans les négociations du Brexit. Pas de traitement de faveur pour les Britanniques. Angela Merkel s'est voulue très claire devant le Bundestag. Certains en Grande-Bretagne se font des illusions, mais ils perdent leur temps. Un État non membre de l'Union ne peut pas bénéficier des mêmes droits. Message de fermeté également sur le calendrier des négociations. Pas question d'évoquer les futures relations Europe-Royaume-Uni avant d'en avoir fini avec le Brexit. Fermeté enfin sur le sort des ressortissants européens en Grande-Bretagne. Si Londres maintient leur liberté de circulation, une offre équitable sera faite pour les expatriés britanniques en Europe. Bref, Angela Merkel entend ne rien lâcher et elle compte sur l'ensemble des Européens pour présenter un front uni ce week-end à Bruxelles.
Cyril Sauvageau, correspondant de Radio France en Allemagne. La Cisjordanie était paralysée par une grève générale aujourd'hui, un mouvement en soutien aux quelques 1500 prisonniers palestiniens en grève de la faim en Israël. Les heurts avec l'armée israélienne sont restés limités, mais les grévistes étaient particulièrement déterminés, comme a pu le constater à Ramallah Étienne Monin.
Ce qui marque d'abord dans les rues de Ramallah, c'est ce flux au compte-gouttes des voitures dans un secteur habituellement embouteillé. Il n'y a pas de taxi, pas de bus, les stores de tous les magasins sont tirés, la grève est bien suivie, mélange de la pression des jeunes et d'une cause populaire, celle des prisonniers, portée par le plus célèbre d'entre eux, Marwan Barghouti, qui mobilise là où le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, laisse aujourd'hui de marbre, explique Taher, gérant d'une pizzeria.
Entre soutenir Mahmoud Abbas et Marwan Barghouti, il n'y a pas à réfléchir. Mahmoud Abbas ne nous a jamais jamais apporté un accord. Nous, on soutient Marwan Barghouti. On va voir ce que ça va donner, la mobilisation populaire. Mais si les gens soutiennent les grévistes de la faim, s'ils continuent la grève, on va voir, ça peut déboucher sur un accord.
Ce qui marque aussi à Ramallah, ce sont les pneus brûlés sur les routes, les débris lancés sur la chaussée pour décourager les automobilistes et les forces de l'ordre qui servent de tampon entre les jeunes et les soldats israéliens au point de contrôle pour éviter tout dérapage 6 jours avant la rencontre entre le président de l'autorité palestinienne et le président américain.
Étienne Monin, correspondant de Radio France à Jérusalem. La Syrie accuse son voisin israélien d'avoir provoqué une énorme explosion ce matin en tirant des missiles sur une position militaire près de l'aéroport international de Damas. L'État hébreu confirme rarement ces nombreuses attaques lancées en territoire syrien depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011. La météo demain sera marquée par un temps globalement ensoleillé, sauf sur le nord-ouest où il y aura beaucoup de nuages. Il neigera encore un peu en montagne. Les températures toujours des gelées matinales. Les maximales sont en légère hausse, 11 à 16 degrés en moyenne, jusqu'à 20 degrés près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec François-Charles Domergue.